On peut imaginer une journée ensoleillée avec un ciel d'un bleu particulier. Quand je dis bleu, c'est parce que dans ce bleu, il y a du blanc, il y a des cumulus, il y a des formes très spéciales. Il y a surtout des formes qui font qu'un ciel, lorsqu'on l'observe comme cela, est un ciel qui ne peut appartenir qu'à la péninsule du Yucatan. Le Yucatan, c'est un lieu où tout bouge. Il y a d'abord l'altitude, cette plaine immense, une sorte de mer intérieure, de la savane partout, en sachant qu'autour, il y a à la fois l'Atlantique, le Golfe, qu'il y a en même temps les Caraïbes. Et puis, il y a surtout ce mouvement du ciel que j'évoque, ce mouvement qui fait que ces nuages avancent sans cesse. On a l'impression qu'il y a deux mondes, le monde de la savane verte et ce monde qui roule dans le ciel. Le Yucatan d'aujourd'hui, Mérida plus particulièrement, qui est une ville étrange, une ville beaucoup plus vaste qu'on l'imagine, perdue dans cette péninsule qui est presque en dehors du pays, qui donne en tout cas l'impression d'être encore au 19e par certains côtés, qui donne l'impression d'être déjà au 21e par d'autres. Mais lorsqu'on évoque le Yucatan, cette péninsule du Mexique qui arrive comme cela dans cette mer, on se dit qu'il n'y avait pas de route, qu'on a fait un train au 19e, que les bateaux accostaient difficilement du côté de Progreso, qu'on vient de faire une digue qui fait 7 km de longueur uniquement pour qu'on puisse aborder en bateau de croisière ou en bateau normaux. C'est un endroit qui fait penser au bout du monde. Et aujourd'hui, si nous croisons le chemin dans un endroit, bon, vous entendrez peut-être des bruits un peu curieux. Là. Il y a à la fois les pétards, c'est un soir de fête, on prépare des grandes fêtes de la Vierge. Il y a en même temps le cri-cri régulier qu'on entend sous les tropiques. Bon, il doit faire quand même quelque chose comme 30 degrés. Et en face de moi, j'ai Sylviane Bouchet qui un jour est partie de son Pas-de-Calais natal comme une petite jeune fille de 14 ans vers ses Amériques à elle, et en l'occurrence des Amériques qui se sont transformées presque en pré-colombien lorsqu'on vit en Pennsylvanie, lorsqu'on vit à Philadelphie et qu'on fait ses études sur place et qu'on étudie l'archéologie. Ben finalement, un jour dans les années 60, à la fin des années 60, on prend un avion, peut-être un bus, et on fait l'autostop comme on le faisait à l'époque, et on découvre un pays, on découvre les sites archéologiques du Mexique. Et c'est une passion, celle des Mayas, qui commence. Et cette passion, j'aimerais simplement que vous m'en parliez, Sylviane Bouchet, en me disant comment est-ce qu'elle a démarré. Parce qu'on a tous un petit rien qui fait qu'un jour ou l'autre, on devient américaniste ou qu'on rêve d'être Maya.
Pour moi, ça a commencé quand j'ai vu une revue qui s'appelle Connaissance des Arts, qu'on avait chez nous, même quand on vivait en Amérique, mais on recevait encore des revues de France. Et j'ai vu des photos de Palenque et de El Tajín. Et quand j'ai vu Palenque, comme ces espèces de petits temples, comme des petits coffres à bijoux au milieu de la jungle, toute verte, ça m'a causé une impression. J'ai dit, c'est ça ce que je veux étudier. Je veux vivre dans une ambiance comme ça. Je ne veux pas vivre dans une grande ville.
Au départ, quand vous parliez de bijoux, votre passion était celle des Étrusques, et en l'occurrence de ces bijoux qui font rêver, comme on peut le faire aussi en Europe en tant que jeune fille ou aux États-Unis. Mais la première revue que l'on ouvre et qui nous fait découvrir ce qu'il y a là juste au sud, le pays d'après, ce pays qui a le côté latino, qui a le côté exotique, qui a le côté culturel aussi, que n'ont pas les États-Unis, et qu'on fait ce premier voyage en 68, qu'ensuite on fait ce qu'on appelle la maestria, c'est-à-dire sa maîtrise à Cholula. Cholula, ça fait rêver, on pense à Cortés, on pense à toutes ces pyramides, on pense à toutes ces églises, on est au pied du fameux Popocatépetl, et que là, on découvre qu'on est vraiment sur le terrain, qu'on vit maintenant au Mexique, on a fait le saut, et puis ce soir, on est là, avec 30 degrés, dans un endroit chaud, dans cette péninsule du Yucatan, dans ce qu'on appelle une quinta. D'abord, dites-moi ce que c'est qu'une quinta, et dites-moi où nous sommes.
La vérité, une quinta, ici au Mexique, c'est une grande maison. Mais moi, je vis dans une hacienda, une petite hacienda. Mais c'est quand même différent, parce qu'une hacienda était une petite ville en soi-même qui était indépendante économiquement à la fin du siècle dernier, au début de ce siècle-là. Mais une quinta, c'est simplement une grande maison. La mienne, c'est une petite hacienda. C'est une grande maison avec des pièces qui ont 7 mètres de hauteur, des grandes fenêtres, des grandes portes. Tout est ouvert puisqu'il fait tellement chaud ici toute l'année. Mais en même temps, il y a quand même tous les arbres autour et on voit un peu de verdure de partout. Et toutes les pièces sont de couleur, un peu comme un fruit exotique, rouge dehors et orange, jaune dedans. Aussi, la couleur mélangée avec le blanc donne de la fraîcheur quand même. Je n'aime pas trop tant de blanc, ça fait un peu trop église. Alors pour moi, la couleur, c'est quand même le Mexique. Et c'est pour ça que je vis dans ces vieux murs qui sont de stuc et qui sont en couleur.
Avoir la chance d'être dans des vieux murs, c'est avoir une passion du vieux, c'est avoir cette passion qui fait qu'on est archéologue, c'est avoir cette passion qui fait qu'on peut choisir un peu par miracle un endroit comme celui-ci. Pour bien s'expliquer, on entend les pétards à l'extérieur, on est dans la banlieue de Mérida, et c'est une chance qui fait que tout à coup on trouve un lieu comme celui-ci, que ce soit une autre chance qui fasse par exemple que l'on travaille sur un site archéologique, que l'on rencontre un étudiant, que l'on finisse par l'épouser. Et si on cite Ramon Carrasco, votre époux, c'est bien parce qu'il est archéologue aussi, et qu'ensemble, quand on s'unit pour le pire mais surtout le meilleur, quand on arrive devant un bâtiment comme celui-ci que le hasard vous offre pratiquement dans la vie, et qu'il tient encore debout, qu'on peut déjà en faire quelque chose, quel a été votre premier sentiment en pénétrant? Ouais. Je décris l'allée, c'est un endroit que je connais, vous avez des arches, vous parliez du rouge, mais c'est ce ton assez particulier du cinabre, ce ton qui fait que le sulfure de mercure, ça a quelque chose de brique en même temps, il y a cette chaleur, et puis il y a par exemple simplement un peu de verdure à l'entrée, une double mise en page autour d'une porte, vous pénétrez, il y a un piano à queue, c'est un luxe, il y a une sorte de véranda qui a été un peu augmentée, et si vous vous baladez dans la maison, vous tombez dans quelque chose qui est très mexicain, la cuisine. Ça, c'est aussi quelque chose qui fait rêver n'importe qui chez nous. Personne ne peut s'offrir une cuisine de 7 mètres de haut avec de la céramique partout et tout ce que vous avez dans la boîte. Décrivez-moi comment une ménagère, parce que vous l'êtes aussi, a eu cette chance extraordinaire de pouvoir accumuler ces richesses colonial, en partant finalement de rien, en donnant un maximum de sa personne. C'est ça, en fait, la passion.
Mais mes richesses coloniales, la cuisine était déjà là quand on a pu avoir la maison. On a juste fait des adaptations, on a mis des grandes fenêtres. Les céramiques étaient déjà là. Moi, j'aurais aimé peut-être des céramiques plus anciennes, mais elles étaient là, elles étaient blanches et bleues, et j'avais déjà des pots, même français, de Le Creuset, qui étaient bleus. Alors, bien sûr, ça, c'était la base de la décoration, mais avec ça, après tout, j'étudie les céramiques et j'aime beaucoup tout ce qui est les céramiques. Donc, avec ça, j'ai mélangé tous mes vieux pots mexicains, que j'utilise, bien sûr, pour faire de la cuisine, en plus. Il y a une porte sur le jardin. Donc, on peut faire de la cuisine et regarder des arbres, des fleurs. On voit même des oiseaux mouches. Et j'ai une grande peinture moderne d'une espèce d'Adam et Ève dans un paradis qui est en dehors de la cuisine. Mais quand je fais la cuisine, je peux la voir. Et des fois, on voit même ces petits oiseaux mouches qui volent d'un côté de la fenêtre, qui se reflètent sur ma peinture. Justement, je mange autour de 4 heures de l'après-midi. C'est un peu bizarre parce qu'on sort du bureau à 3 heures et demie. Mais c'est justement à l'heure où le soleil est de ce côté et que je vois l'ombre des petits oiseaux mouches.
L'ombre d'un colibri sur un mur ou sur une peinture, c'est aussi l'ambiance que nous avons maintenant. Là, le jour a avancé, la nuit est tombée, on entend encore quelques pétards à l'extérieur. Il y a ce bruit très curieux qu'on a sous les tropiques. J'évoquais ces petits cris-cris. Il y a surtout une ambiance nocturne. Ce serait par exemple le fait de traverser ce long couloir, cette grande maison où toutes les pièces se répondent les unes derrière les autres. Ça, c'est typique des haciendas ou en tout cas de ces bâtiments, soit construits au début du siècle ou au siècle dernier, au moment de l'explosion agricole du Yucatan, et en l'occurrence au moment où le sisal, plus exactement le jute pour nous, enfin le henequen comme on l'appelait sur place, va devenir la grande exportation du Yucatan. Le Yucatan s'ouvre au monde en étant isolé du monde. Est-ce que vous pourriez juste me situer le fonctionnement de cette même hacienda? Je remets le hamac à l'extérieur, je remets l'ambiance, j'ai un immense endroit pour l'eau, je mettrai peut-être effectivement un moulin à vent avec une tour, j'imagine vraiment l'usine, enfin ce qu'on appellerait la pièce de machinerie qui se trouve en ruine à quelques mètres de nous. Est-ce que vous pourriez juste quelques instants mettre une longue robe et vous imaginer celle qui a dû un jour tenir cette hacienda, même si elle est paraît modeste dans sa grandeur, elle a vraiment fonctionné il y a quelques dizaines d'années. Ambiance, et puis comment situer cette campagne autour de Mérida, ces milliers d'hectares de sisal?
Je suppose que quand cette hacienda a fonctionné, elle avait justement des meubles français, que les gens qui vivaient ici, les femmes surtout, envoyaient même leurs costumes à être nettoyés à la Nouvelle-Orléans. Le port de Progreso existait depuis la fin du 19e siècle et tout le monde envoyait leurs habits à être nettoyés de l'autre côté des Caraïbes. Les gens n'avaient pas vraiment de grandes fenêtres. Ça, c'est une adaptation qu'on a fait moderne. Il y avait juste des grandes portes. Tout était ouvert. Et il y avait très peu de meubles, en fin de compte. C'était un peu plus du camping de ce qu'on penserait aujourd'hui. Ce n'était pas une vie aussi formelle qu'on pourrait penser pour la taille de ces maisons. Et tout le monde vivait un peu comme les Mayas, dedans et dehors en même temps. Toutes les portes étaient ouvertes. Et on pouvait même bouger, puisqu'il n'y avait pas de lit, il n'y avait rien que des hamacs, on bougeait le jour où tu avais besoin de t'étendre, tu pouvais bouger ton hamac d'une pièce à l'autre ou même manger d'une pièce à l'autre. C'était quand même quelque chose d'assez fluide. Ce n'était certainement pas une ambiance du 19e siècle, moi je pense, comme en Europe, où tout était beaucoup plus strict. Dans ces maisons où des fois il y avait quatre portes dans une seule pièce, on était à l'œil de tout le monde. Les gens qui travaillaient sur l'hacienda vivaient ensemble avec vous. Le petit train qui passait devant l'hacienda qui amenait les feuilles de sisal était tout près. L'eau qui était pour toute l'hacienda était tout près de la maison. Donc, on vivait en communauté avec tous les servants et même les gens, les hommes qui travaillaient et coupaient le sisal. Je pense qu'ils étaient souvent sous la véranda, par exemple, assis devant quand ils attendaient quelque chose ou juste d'être payés ou juste pour se mettre à l'ombre un moment. Je pense que notre idée de la, comment est-ce qu'on dit, de ce qui est privé pour nous était assez différent, au moins pendant les heures où tout le monde vivait ensemble.
Donc on a une fausse idée qui serait justement celle que l'on a peut-être en ayant vu des films sur, vous citiez la Nouvelle-Orléans, quand on pense au coton, quand on pense au Mississippi, il y avait cette séparation totale de l'esclave noir, du propriétaire enfermé, et en l'occurrence au Yucatan c'est un autre monde, cette unité d'ailleurs, cette douceur de vivre, il y avait une caste divine, il y avait des gens immensément riches, mais le contact avec la population, il arrive aujourd'hui de croiser un millionnaire qui parle avec un peon et on a cette impression de communication même s'il y a différence économique.
Oui, et justement, les gens, je trouve très drôle que cette caste divine ici a un accent particulier. Et cette accent vient du fait qu'ils parlent presque tous maya. Et ils parlent maya parce qu'ils avaient tous des nourrices qui étaient mayas. Et ça, c'était très important. J'ai lu récemment que, soi-disant, c'était une forme de domination des Espagnols, d'apprendre tout de suite au début, parce que c'est complètement différent du reste du Mexique, la langue des Mayas. Je crois qu'ils ont été tellement impressionnés par les Mayas, qu'il y en avait tellement et qu'il y avait une culture tellement importante, qu'au lieu de s'enfermer dans leur petit monde espagnol, ils ont tout de suite voulu connaître le Maya, ils ont appris le Maya et ils ont vécu beaucoup plus près d'eux. Surtout parce qu'il y avait presque pas d'Espagnols et beaucoup, beaucoup de Mayas, c'est ça.
L'impression d'isolement que j'évoquais est quand même quelque chose d'assez tangible. Quand on arrive pour la première fois, vous citiez 68 je citais 68 pour votre arrivée au Mexique, le Yucatan était encore une terre presque inconnue. Je veux dire, Mérida n'était pas une ville touristique encore. On connaissait Uxmal, on connaissait peut-être Chichen Itza, mais Cancun n'existait pas, Tulum était pratiquement inconnu, le Quintana Roo n'était même pas un état qu'on pouvait traverser de part en part. Donc cette péninsule a quelque chose de tout neuf et on le sent très bien. Cette espèce d'impression... Même dans l'endroit où nous sommes ce soir, on a l'impression en même temps d'être complètement contemporain, je le disais tout au début, et on sent que toute cette péninsule est en même temps quelque chose de calme, un fonctionnement particulier, à un fonctionnement qui remonte à plusieurs décennies. Comment est-ce qu'on vit comme française, américaine, mexicaine, à Mérida, au Mexique aujourd'hui? Parlez-moi un peu du rythme de vie ou plutôt de l'art de vivre.
C'est justement pourquoi que je vis à Mérida, parce qu'on a encore le temps de lire, de faire de la cuisine. les restaurants ne sont pas extraordinaires. Donc, les gens, souvent, le plus normal, c'est d'inviter des gens chez vous. Et quand même, ici, j'ai trouvé qu'au Mexique, dans les tropiques, les gens font beaucoup de réunions. Et le normal, c'est d'avoir des réunions chez les uns les autres. Et on reçoit les gens et on reste des heures à bavarder. Surtout, les gens viennent chez vous très tard, des fois même à 10h, 11h, pour manger à 2h du matin à cause de la chaleur. Et c'est très souvent qu'on peut revenir chez soi à 4h du matin. C'est quelque chose qu'à Mérida n'est pas du tout extraordinaire. Non, ce n'est pas quelque chose juste pour le jour du Nouvel An, par exemple.
Yo soy el sur, yo soy... Año uno conejo, yo soy eternidad de espina, yo soy ni ewistlampa, ni insecto shiwit, ni huemanwistli, ni yo soy yo.
Parler de vie en commun, ou parler de ces échanges entre familles, entre gens qui se connaissent. Est-ce que justement ce côté lié, cette obligation d'avoir, je dirais, une forme sociale très particulière, est-ce que c'est quelque chose qui est justement bien clair et bien défini lorsqu'on vit et qu'on est étrangère au départ, même si on est lié par le mariage à ce Mexique-là? Est-ce qu'une ville comme Mérida, est-ce qu'un fonctionnement de ville comme Mérida peut nous paraître étranger lorsqu'on arrive? Est-ce que justement ces liaisons internes sont assez particulières? Est-ce que c'est vraiment très typique de ce que l'on vit dans une ville coloniale, ou dont on vivait dans une ville coloniale il y a plusieurs décennies?
Je pense que justement, il y a un côté de Mérida, de la ville de Morelia, de Puebla, qui sont justement les villes des plus coloniales du Mexique, et qui sont justement des plus conservatrices aussi. Et c'est quand même très, très difficile de rentrer dans la société de ces villes, surtout des vieilles familles qui ont toujours vécu ici. C'est même très, très rare. Bien sûr que nous, on est un peu spéciaux en tant qu'archéologues, non? Les gens sont toujours très intéressés à nous parler à cause de ça. Mais quand même, aussi comme un couple comme nous n'avons pas d'enfants, ça, c'est quand même quelque chose de très étrange pour les Mexicains. qui quand même nous met au bord de la bohémie pour eux. C'est quelque chose qu'ils n'arrivent pas à comprendre du tout. Et je pense qu'il n'y a aucune justification pour un Mexicain, même en aimant beaucoup son travail ici, il n'y a aucune excuse pour ne pas avoir d'enfant. Et c'est quelque chose qui nous sépare quand même beaucoup de beaucoup de personnes, quoi. Bien sûr qu'on a beaucoup d'amis, mais en tant que les gens des vieilles familles d'ici, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire qu'on excuse un peu pour, en étant des intellectuels, par exemple.
Parlez-moi de vos passions, justement. Là, quand on prend à tout hasard les dernières revues où qu'on parle des dernières grandes recherches, celles qui vous ont fait rêver dans cette connaissance des arts de l'époque, où vous avez lu quelque chose sur Palenque, on venait de trouver un tombeau extraordinaire dans les années 50, et puis on en parlait encore dans les années 60. El Tajín, sur la côte tropicale, là au nord de Veracruz, était un site qu'on venait de découvrir avec une pyramide avec 365 niches, des choses qui font rêver. Si je devais rêver maintenant d'après l'an 2000, carrément, du Mexique, c'est-à-dire parmi les 12 ou 13 000 sites archéologiques que nous avons sur cette espèce de constellation qu'est le pays, il y a des sites récents que l'on vient de découvrir, des bombes comme ça qui tout à coup déplacent l'histoire, des événements, même si les sites ne sont pas aussi violemment parlants. Je parle de physique, je parle de pyramides, je parle de temples, de palais, de tombes même, mais aujourd'hui il y a quand même des choses nouvelles. Il y a tout à coup, chez les Mayas en tout cas, la connaissance de l'histoire. Le fait qu'on sait que Louis XIV a passé à tel endroit, qu'il a construit Versailles, et puis que Louis XV était derrière lui, que Louis XVI s'est fait couper la tête, ce qui irait très bien pour un Maya. Ces choses qui font qu'en lisant les hiéroglyphes, à partir de ces derniers mois, de ces dernières années, on a fait un bond en avant qui ferait par exemple qu'un site comme Calakmul rentre dans l'histoire parce que Tikal est ailleurs. Pour ceux qui nous écoutent, ça ne veut peut-être rien dire, mais ça signifie tout à coup qu'un continent vient de découvrir une civilisation et que cette civilisation a une histoire aussi impressionnante que celle des Grecs, celle des Égyptiens, celle des Chinois. Quel effet est-ce que ça fait lorsqu'on a vécu ces 20 dernières années et que tout à coup on se rend compte que les Mayas ont cette solidité historique qui les projette du primitif à disons, une civilisation beaucoup plus cultivée qu'on l'imaginait, même s'ils n'ont taillé que de la pierre?
Bon, en ce moment, nous sommes en train de travailler dans le grand site de Calakmul. Calakmul est très important parce que c'est l'un des sites qui a le plus de stèles mayas. On a aujourd'hui 120 stèles qui ont été reportées ou qu'on a trouvées, parce que récemment on vient d'en trouver au moins 10 cette année. Calakmul est très important parce qu'il paraît que dans le classique, après le classique récent, il paraît que Calakmul est une capitale régionale. En tant que Tikal a été une à un moment, Calakmul après commence à avoir son époque où c'est Calakmul le site. Tout ça, c'est très difficile de dire en français. C'est Calakmul un site qui a été le plus nommé dans d'autres sites. Non, dans le sud, à Dos Pilas, dans d'autres villes mayas comme Comquen, on parle de Calakmul sur les monuments. C'est-à-dire que Calakmul, qui était très au nord, est une des villes qui a peut-être un réseau d'informations extraordinaires ou même de relations entre la élite d'autres sites avec Calakmul.
Quand vous parlez de Calakmul, situons déjà l'endroit. C'est vrai que c'est un site qui est inconnu pratiquement du monde entier. On a trouvé des masques extraordinaires, on a trouvé des céramiques extraordinaires, des tombes extraordinaires, des temples extraordinaires, des pyramides extraordinaires, mais personne n'en parle encore. Calakmul, c'est tout en bas de cette péninsule où nous sommes maintenant. Mérida, on l'imagine mieux, c'est au nord, là c'est près de la mer. Progreso, qu'on évoquait, est à quelques kilomètres, 40 kilomètres, donc on pourrait se baigner en moins d'une heure. Calakmul, c'est vraiment dans une partie qui ressemble déjà à la jungle du Petén guatémaltèque. On est vraiment dans la partie la plus large et la plus basse de la péninsule. On a changé d'état, on a passé au Quintana Roo, on le connaissait par Cancun, on descend toujours plus bas sur la côte des Caraïbes, on suit la barrière de corail jusqu'au Belize, et depuis là, on se retrouve alors dans la direction de Palenque, comme si on voulait traverser de nouveau la péninsule, et Calakmul se trouve tout près de la frontière guatémaltèque, pour simplifier. Un site qui vous l'évoquiez très bien, en l'occurrence, Sylviane Bouchet, est un site qui a dû avoir des communications incroyables avec le reste du monde maya. Quand on dit cité Calakmul sur une stèle, ça signifie que l'écriteau de Paris se retrouverait à Marseille, tout comme il se trouverait à Hambourg, comme il se trouverait à Londres. Or, le trouver chez les Mayas à Copan ou Honduras, le trouver à Dos Pilas, comme vous le disiez tout à l'heure, ou même ailleurs dans les sites classiques, ça signifie que Calakmul a été une petite bombe politique, économique, à un moment donné. Quand on visite Calakmul aujourd'hui, qu'on l'a fouillé comme l'a fait votre mari, qu'on a travaillé la céramique comme vous l'avez fait vous-même, est-ce que Calakmul c'est vraiment une capitale culturelle, économique, politique, guerrière, telle qu'on l'imagine dans l'histoire que l'on commence à lire?
Il paraît que guerrière, oui. C'est justement ça, la grande importance. Je crois que culturelle, c'est quand même très difficile. On n'a pas encore assez fouillé pour pouvoir dire quelque chose comme ça. Mais quand même, ce qu'on voit de Calakmul, ce qui m'a intéressée, c'est que même depuis le début, 700 ans avant Christ, on a des influences qui viennent du Nord et aussi qui viennent d'aussi le Sud comme le Salvador. On paraît avoir des céramiques qui ont été importées du Salvador, de la vallée du Guatemala, à une époque qui est vraiment très
ancienne. Mais quand vous parlez de contacts comme ceci entre des pays qui sont situés aujourd'hui sur la carte, vous parlez d'un site que personne ne connaît, et là tout à coup on se rend compte qu'on est capable de situer, comme j'évoquais les écriteaux tout à l'heure sur la carte de l'Europe pour une ville comme Paris, tout à coup on se rend compte que Paris n'existait pas. Et que d'un jour à l'autre, pour des raisons archéologiques, parce qu'on est dans la jungle, parce qu'on est en dehors de tout et parce qu'il n'y a pas de communication, puisqu'on les évoquait pour la péninsule du Yucatan, il suffit de mettre un projet en route, d'avoir tout à coup de l'argent pour fouiller, et un site éclaire le monde d'une civilisation tout entière. En l'occurrence, vous avez parlé de 120 stèles, de quelques dizaines qu'on va retrouver encore, de celles qu'on vient de retrouver cette année. Sylviane Bouchet, si je vous demandais de m'évoquer d'abord ce que nous apportera ou nous apporte déjà ces 120 textes, ces 120... Une stèle, d'abord, il faut le dire, c'est souvent l'évocation d'un grand personnage qui est gravé et qui a été sculpté dans la pierre avec une forme oblongue, un peu comme un grand cartouche géant qui peut avoir 1m50, 2m, 2m50 de hauteur. Et puis des dizaines, voire des centaines de petits glyphes, des cartouches de nouveau, qui contiennent des sons. Et là, on pourrait rentrer un tout petit peu dans l'idée de l'épigraphie, parce que si je vous adresse la parole, c'est un peu comme si on rencontrait quelqu'un qui avait connu Champollion. C'est-à-dire qu'on est en train de découvrir ce qu'on a découvert en Égypte il y a 100 ans. On a peut-être 100 ans de retard, mais c'est une révolution dont personne ne parle encore. Tout à coup, on lit. Les Mayas d'aujourd'hui, à quelques kilomètres de là, grâce à Linda Chile ou à d'autres, peuvent commencer à relire leurs propres hiéroglyphes du passé. Comme aujourd'hui, quelqu'un peut rentrer dans une université et apprendre l'égyptien ancien sans problème. Aujourd'hui, on peut sortir une grammaire maya. Ce sont des choses tout à fait révolutionnaires. Il y a une révolution épigraphique. Est-ce que vous pourriez m'en parler tout en continuant à évoquer Calakmul ou en tout cas ses grandes découvertes?
Il y a, par exemple, nous avons connaissance d'un des grands rois de Calakmul, Kouish, qui s'appelait. Ce monsieur, soi-disant, est allé à faire une visite à Yaxchilan. Et nous avons trouvé...
Yaxchilan, il faut le dire, ça se trouve plus à l'intérieur. C'est de nouveau entre le Guatemala et le Mexique. La différence, c'est que c'est dans une grande boucle extraordinaire du fleuve Usumacinta, qui pour moi est un peu l'autoroute des Mayas. C'est un fleuve très large, boueux. Et Yaxchilan, c'est un site qui grimpe sur une colline et qui a quelque chose d'admirable lorsqu'on le visite pour la première fois. Et je crois que c'est là que vous avez rencontré votre mari.
Oui, c'est là. Mais en fait, ce qu'on a trouvé à Calakmul, c'est un linteau qui est une grande pierre qui est sur l'entrée d'un temple. C'était une sous-structure, un petit temple qui était enveloppé dans un temple beaucoup plus récent. Et on a trouvé ce gouverneur qui, soi-disant, dansait sur une espèce d'ouverture qui a l'air d'être le crâne d'une montagne sacrée maya qui est ouverte. Et ce qui était très intéressant pour nous, c'est que c'était un linteau, parce qu'on n'avait jamais trouvé des linteaux à Calakmul. Les linteaux sculptés, comme les stèles, sont beaucoup plus populaires et normales dans l'architecture à Yaxchilan. À Calakmul, on n'en avait jamais trouvé. Au début, on a cru que c'était une stèle. Et après, on a fait les mesurements et on s'est rendu compte que c'était justement l'ouverture de la porte de ce temple. Donc, comme ce monsieur à cause d'autres textes, a été connu d'avoir été à Yaxchilán. On a trouvé ça très intéressant comme une possibilité que cette mode de faire des sculptures sur les linteaux avait passé à Calakmul pour la visite de ce monsieur Kouich. Il y a aussi beaucoup de références d'un gouverneur qui s'appelle Pat de Jaguar, qui a soi-disant été tué, vaincu à Tikal, qui était le grand gouverneur de Calakmul, et qui est rentré dans des alliances politiques avec plusieurs cités, justement pour pouvoir rompre le pouvoir de Tikal.
Comme cela, tout à coup, Pat de Jaguar, ce monsieur, comme vous l'appelez, Kouich, qui est un gouverneur et qui se déplace, qui va jusqu'à Yaxchilán, c'est vraiment comme si tout à coup, je le disais tout à l'heure sur la carte de l'Europe, un roi se déplace ou un pape envoie un cardinal. Il y a vraiment des formulations qui paraissent extrêmement simplistes, mais que tout à coup, vous me dites de façon tout à fait normale. Comme on dit, ben c'est vrai, Ramsès II a vécu de telle manière, est parti, on a découvert le char, on a eu les chevaux, il y a eu les Hittites, et tout ça nous semble normal aujourd'hui. Pour les Mayas, tout à coup, la vie des personnages, ce linteau qui devient une mode, que l'on va chercher ailleurs sur la carte des lieux et qu'on reprend dans son propre fief, ça nous prouve que d'abord les Mayas ont beaucoup voyagé, qu'au point de vue économique il y a eu des contacts qu'on ignorait complètement et qu'en fait ils vivaient comme n'importe quelle autre grande dynastie avec des contacts entre les grands dynastes. Est-ce que par rapport à ce que vous avez découvert à Calakmul, donnez-moi par exemple le contenu d'une tombe ou une révélation, je ne sais pas, une momie ou quelque chose qui justement tout à coup devient un événement, quelque chose qu'on aura envie de lire dans le Paris Match du coin parce qu'on se dit tiens, c'est vraiment la dernière chose que l'on a découverte et qui fait du bruit.
Vous me demandez ça parce que justement, on a découvert une tombe avec une espèce de momie. On dit une espèce parce qu'on n'est pas trop sûr que les Mayas eux-mêmes ont momifié ce corps. Ça se peut que ça soit à cause de quelques événements naturels, d'une espèce de boue ou d'eau qui est rentrée dans la tombe. Mais le résultat que nous avons, c'est que nous avons un corps sur deux grandes planches. Il y a même des restes de l'impression des mattes. Comment est-ce qu'on dirait ?
C'est la natte. C'est la natte, en fait, la façon de tresser une natte
autour du corps, qui est imprégnée sur le des parties de stuc ou de cette espèce de, on ne sait pas, ça pourrait même être une résine d'un arbre qui a été mis tout autour du corps et qui a fait que ce corps et ces grandes tables de bois a pu survivre plus de 1000 ans. Nous allons maintenant faire des études là-dessus pour essayer de voir si c'était un accident ou quelque chose que les Mayas même ont pu faire. Il paraît qu'à Tikal, il y a aussi une tombe qui a eu une espèce de liquide tout autour, dans l'intérieur de la tombe. La tombe, il faut dire, c'est une espèce de petite pièce avec un petit arche maya juste de 2 mètres de long, juste bien pour pouvoir mettre un corps et au moins une vingtaine de pièces de céramique tout autour. Ce corps avait aussi un beau masque de jade en mosaïque. Ce n'était pas des grandes pièces de jade, ce n'est pas un monsieur aussi important que Patte de Jaguar, mais c'était sûrement quelqu'un de la élite. Le masque avait des yeux en obsidien, des lèvres en corail. On a vu qu'il avait une petite cape sur les épaules qui était remplie de petites plaques de coquillages, non ? Qu'est-ce qu'il avait d'autre ? Un grand couteau dans les bras, un grand couteau d'obsidien, peut-être même quelque chose comme un sceptre. Les céramiques, malheureusement, n'étaient pas peintes. Elles étaient toutes avec un engobe noir. Elles sont belles, mais elles ne sont quand même pas des céramiques avec des glyphes. Ce n'était quand même pas quelqu'un qui avait laissé son histoire là, comme dans beaucoup d'autres tombes. Mais dans d'autres tombes à Calakmul, on a quand même trouvé des céramiques qui étaient sculptées, modelées, où on voit des restes de représentations des mythes du fameux livre sacré des Mayas, du Popol Vuh. On voit même un dieu qu'on a appelé the Great Bird Deity entre les Américains, qui est un des dieux les plus anciens des Mayas, qui a été utilisé par la royauté maya comme un symbole iconographique pour la royauté. Et cet oiseau qui a un aspect négatif et un aspect positif, parce que soi-disant c'était un dieu faux qui a été tué, mais quand même on pense qu'il doit quand même avoir un autre côté de l'histoire, puisque la royauté a quand même adopté pendant au moins 400 ans cette figure et pour par exemple faire des casques que les rois se mettaient sur leur tête. Il doit quand même avoir un aspect, une descendance de cet oiseau qui est très important. Et qu'on voit à Calakmul dans beaucoup de peaux, on voit la tête peut-être de monsieur même qui était enseveli dans la tombe, dedans un grand masque avec un grand bec, un espèce de bec un peu comme d'un vautour, et il est dedans, un peu comme on voit les guerriers des Aztèques. Et c'est très impressionnant de voir ça. On ne sait pas trop si on est en train de voir l'homme humain, le mort qui était là, ou un dieu des Mayas. Non, puisque en fin de compte, une des choses que les Mayas faisaient assez souvent, c'était de s'habiller comme leur dieu, ou même l'animal.
On pourrait dire comme l'animal totem, comme l'esprit totem. En l'occurrence, là, on est en même temps un peu interrompu. Il y a un petit bruit de fond qui a changé. Les insectes se sont presque tués. On entend des pétards, ou plus exactement des fusées. Il y a même des petites grenouilles, comme on les appelle, qui explosent dans tous les sens. On entend à l'horizon une cloche. Nous sommes toujours dans l'hacienda. La température n'a pas beaucoup baissé depuis tout à l'heure. Cette impression coloniale reste. Quand on prépare une fête au Mexique et qu'on entend les bruits que nous entendons derrière nous et qui ne nous interrompent pas du tout, il y a même des prières. Il y a un haut-parleur. On est en train de chanter une procession, peut-être même. Évoquez-moi un peu une soirée comme celle de ce soir, qui, par rapport à la Vierge de Guadeloupe, c'est ce soir, mais pourrait correspondre à d'autres grandes fêtes. Comment est-ce que les gens, dans une banlieue, d'une grande ville qui a pratiquement 600 000 habitants, et comment est-ce qu'on peut, avec une petite chapelle, un son de cloche, cette impression d'être, une fois de plus au 19e, vivre comme nous le vivons maintenant ?
Au mois de juin, ici à Ixcumpitch, on fait la fête de Saint-Antoine. Et justement, c'est un peu comme ça avec les pétards et une procession. On sort le saint qui était dans l'église et on le promène tout autour, même dans l'usine de Cordemex, où on fait des choses de sisal. Une des femmes qui travaille chez moi m'a demandé il y a un mois si je voulais acheter des tickets pour si je voulais gagner la possibilité de gagner que le saint sortirait de ma maison ou la Vierge, parce qu'on commence la procession comme ça, d'une des maisons, et alors tout le monde veut que ce soit sa maison, et comme il y a tellement de personnes qui veulent ça, on tire, on achète des tickets et on tire, et avec l'argent on fait des habits pour la Sainte Vierge par exemple. Et alors, je n'ai pas gagné, c'est quelqu'un d'autre. Tout le monde était furieux parce que c'est une nouvelle personne qui vient juste de venir ici à Ixcumpitch. Et ils n'étaient pas trop contents, mais quand même, elle a gagné. Alors, la procession va venir et elle va faire tout le tour de la petite place. Et ils vont terminer dans l'église de Cordemex, pas l'église d'ici même, mais l'église qui a été faite pour tous les travailleurs de la grande usine de Cordemex.
Quand vous parlez de Cordemex, on revient à notre sujet de tout à l'heure. Cordemex, même en français, ça se comprend. C'est l'endroit où on fait de la corde, c'est fait au Mexique et ça a été fait de façon étatique et c'est quelque chose qui est en train de disparaître un peu aujourd'hui. Reparlez-moi peut-être pour quelques secondes de l'endroit où nous sommes, puisque une hacienda, c'était d'abord la production de ce jute. La petite église qu'on a entendue jusqu'à maintenant et qui vient de se taire avec sa petite cloche correspondait à des gens qui vivaient dans le lieu, donc qui pouvaient à la fois créer le village où nous sommes, donc les peones, les gens qui travaillent sur le terrain. Et puis un jour, il y a l'évolution. On arrive au XXe siècle, il y a tout à coup une grosse usine qui devient nationale, qui devient, disons, une sorte d'entreprise complète qui couvre tout le Yucatan et en même temps le CISAL devient quelque chose d'étatique qui finalement ne fonctionne plus comme au XIXe siècle. Il y a de la concurrence en Inde, si je ne m'abuse, il doit y en avoir aussi en Afrique. Est-ce qu'un produit presque unique comme on l'a eu au XIXe siècle était viable et reste viable pour le Yucatan?
Moi, je penserais que oui, mais il faut surtout avoir des nouveaux dessins et des nouvelles adaptations pour la plante du sisal. Parce que quand même, on voit ces espèces de tapis des Philippines qu'on vend de partout. On pourrait très bien faire ça avec le sisal. Ça dure, c'est une corde qui est très, très forte, qui dure très longtemps et on pourrait faire des belles choses avec.
Expliquez-moi un peu ce qu'est le sisal, parce que vous avez parlé des épées tout à l'heure de ce cactus. C'est un cactus, c'est une agave qui a des sortes d'épées pointues, un peu bleutées, un peu verdâtres. On trouve ça dans la rocaille et la savane qu'on aurait coupée, qu'on pouvait d'ailleurs défricher sur pratiquement toute la péninsule du Yucatan. La péninsule, il faut le dire aussi, c'est une immense plaque calcaire qui remonte de quelques mètres de la mer et qui a une altitude, là je crois qu'on est à 8 ou 12 mètres à Mérida, on a des sommets incroyables à 100 mètres d'altitude pour aller jusqu'à Uxmal, c'est vraiment le terrain le plus plat que je connaisse au monde. Donc c'est une immense plaque de calcaire sur laquelle ce cactus a poussé pendant plus d'un siècle, parce que c'est assez récent finalement, et peut-être déjà depuis le 16e, ça a toujours été là, mais l'exploitation a été très forte au 19e siècle. Et ce sisal, essayez de me donner un peu l'évolution. La plante pousse, combien d'années, qu'est-ce qu'on en fait, comment est-ce qu'on l'exploite et comment est-ce qu'on l'a exploité?
Le sisal pousse pendant plusieurs années, mais la vérité, la plante n'est bonne jusqu'autour de 2 ans. Après qu'il coupe toutes les feuilles de la plante, c'est fini. La plante continue à pousser, il ne l'enlève pas. Une espèce de grande tige sort avec une belle fleur et ça veut dire que c'est l'annoncement de la mort de la plante. Et après ça, la plante se
désagrège, quoi.
Et ce sont les fibres de ces grandes feuilles qui s'utilisent. Pour les enlever, ils triturent la feuille. Et après, toutes les fibres sont mises au soleil pour sécher. Ça a une odeur assez désagréable, un peu comme des... Comment est-ce qu'on dirait?
Une odeur de pourriture, comme ça.
Oui. Et après, ils ramassent ça en gros rouleau et... Je sais pas qu'est-ce qu'ils font après ça, parce qu'on voit les camions dans tout le Yucatan avec leurs grandes bottes de cordes, mais pas faites. Les cordes se fait dans l'usine, mais ça, après que ça rentre dans l'usine, on le voit jamais, mais on voit toujours ces grands camions pleins des fibres. Et on transporte les fibres, tout le monde transporte leurs fibres à cette grande usine, par exemple.
Donc effectivement, la fibre, c'est, si on prend une simple ficelle qu'on trouve autour d'un paquet postal, c'est du sisal. Si on défait cette ficelle, on se retrouve avec des tout petits fils qui, eux, sont très durs, très fermes, et qui sont justement ceux qui étaient dans l'épée de tout à l'heure, que vous avez séché au soleil et que vous avez trituré, comme vous l'avez dit, pour en sortir le jus, cette matière verte qu'on renvoie dans les champs. Mais en l'occurrence, quand on arrive ensuite à cette corde, on peut en faire tout ce qu'on veut, bien sûr. Ça peut être le sac de jute qu'on n'évoquera pas, ça peut être le tapis que vous aimeriez faire, un peu comme celui des Philippines ou le tapis de coco. Et qu'est-ce que vous feriez faire aujourd'hui au Yucatan, puisque cela baisse un peu? De quoi vit une ville comme Mérida? Et qu'est-ce que la ville de Mérida est pour vous? Parce que pour quelqu'un qui vient de l'extérieur, c'est un peu le mystère. Il y a un centre, un zocalo, un côté colonial. Décrivez-moi Mérida comme on pourrait la voir en tant que touriste. Et puis ensuite, votre Mérida, qui a quand même 600 000 habitants et qui est devenue une capitale à la fois économique et politique, insoupçonnée souvent lorsqu'on la visite de l'extérieur.
Mon Mérida. Bien sûr, moi j'aime le Mérida du centre, le Mérida plus ancien. Même Mérida était quand même sur un site maya. Mais bien sûr, on n'y voit rien maintenant. On est complètement dans le Zocalo même, dans le centre même de la ville. On voit une grande place avec des gros arbres et une très belle cathédrale, très très simple, qui est justement une des plus belles à cause de ça. D'un autre côté du centre même, il y a une nouvelle banque qui est en fin de compte la maison la plus vieille des Amériques. C'était la maison originale des Montejos, des Espagnols, des conquérants d'Espagne qui sont venus ici.
Quand vous évoquez la conquête, celle des Montejos qui sont arrivés, père et fils, dans les années 1540, qui ont pris le site de Tiho et qui ont installé cette ville de Mérida, est-ce que vous imaginez l'endroit comme une chose très coloniale? Je veux dire par là, est-ce que Mérida au départ a été une ville purement espagnole sur un site précolombien? Est-ce que vous aimez aujourd'hui cette vieille maison de Montejo avec ses colonnes très curieuses, avec ses personnages, je dirais presque emplumés, qui nous montrent bien la force de la colonie? Votre extraordinaire cathédrale de pierre calcaire qui nous fait comprendre qu'on a utilisé des pyramides ou des palais ou des choses que vous exploitez aujourd'hui en pleine jungle à Calakmul et qui ont été repris pour construire cela. Est-ce que la Mérida du XVIe siècle, qui est tardive par rapport au reste de la colonie, est une petite ville qui fonctionne toute seule à l'autre bout du monde et qui est très espagnole à ce moment-là?
Oui, complètement. Et Valladolid aussi, parce que Valladolid était quand même peut-être une ville même plus des Espagnols que Mérida. Parce que Mérida, en étant au centre, a quand même reçu toujours des influences de Belize, de Campeche. La ville peut-être avec une saveur plus espagnole était Valladolid. Mais Mérida était une toute petite ville qui était complètement séparée du monde, complètement. Et justement, je trouve que Campeche, dans la colonie, était beaucoup plus international que Mérida même. C'est peut-être pour ça qu'il y avait peut-être un grade de mestissage.
De métissage.
Beaucoup plus haut à Mérida, qui a été beaucoup plus vite. Au début, on importait même les artistes du Guatemala, par exemple, pour faire les hôtels et tout ce qui était en argent dans les églises. Malheureusement, toutes ces beautés ont disparu à cause de la révolution du Mexique, qui est venue très tard ici à Mérida, puisque le système de colonisation, justement, de l'exploitation du sisal, tenait les péons mayas dans une situation presque féodale très très tard. Et justement, la péninsule n'était pas très bien communiquée avec le centre et la révolution n'est presque pas arrivée ici. La révolution est arrivée avec les généraux du centre du Mexique, Alvarado, qui est venu ici et qui a mis son étable avec son armée dans la grande cathédrale au centre de Mérida et qui est toujours aujourd'hui haï pour les gens de Mérida à cause de ça. Et en même temps, ils ont détruit presque tous les retables aussi. Il en reste encore dans des grands couvents comme Mani. Mais quand même, à côté de d'autres parties du Mexique, c'est quand même assez pauvre en art colonial, Mérida. Non, mais bon, tous les petits villages de Yucatan, même en étant pauvres, ont quand même des églises extraordinaires qui sont très très grandes, un peu forteresse justement. On a l'impression que les prêtres avaient un peu peur de tous ces mayas autour d'eux. On est très surpris de lire par exemple que Izamal au XVIe siècle n'avait pas plus de 8 ou 10 prêtres dans ce couvent qui était le plus grand de toutes les Amériques. Donc quand même ils étaient tout seuls, isolés.
Ana hoy
cachet quand on évoque ce mélange. On a fait une sorte de voyage dans le temps, en partant d'une hacienda coloniale, d'une hacienda du début de ce siècle, d'un endroit qui est resté confortable et qui a gardé certains charmes d'antan. On a parlé de la colonie, on a parlé d'une passion qui est l'archéologie, le passé, les Mayas. Et en même temps, on a survolé cette péninsule en allant de Calakmul, qu'on exploite sur le plan archéologique de façon très heureuse, jusqu'à Progresso, où on vient de construire ces 7 km pour que la mer soit plus proche et que les bateaux puissent arriver plus facilement à nous. Comment est-ce que vous considériez le Yucatan de demain? Est-ce que c'est justement une péninsule qui, par son retard, qui devient une avance? C'est-à-dire le fait d'avoir été mise un peu de côté historiquement conserve cette espèce de chaleur, cette qualité de vie que vous appréciez, que vous nous faites partager simplement par le climat, par la petite fête de tout à l'heure. On est dans une ville de 600 000 habitants, il ne faut pas l'oublier. Et on se dit, on vit quelque chose qu'on vivrait en pleine montagne ou dans un endroit perdu du Pas-de-Calais ou dans les endroits les plus perdus du fond de l'Espagne en même temps, tout en ayant une impression de capitale et d'être à Paris ou à Genève. Est-ce que ce Mexique-là a quelque chose de plus chaleureux et de plus fort que partout ailleurs au Mexique?
Bien sûr, parce que je vis ici, c'est pour ça. Mais pour moi, c'est ce qui est très important ici, c'est que les gens m'aiment, surtout les gens de la campagne, les gens qui parlent encore maya. Ce sont des gens qui quand même voient tout l'univers d'une manière intégrée. Par exemple, j'ai un monsieur juste dehors là qui attend qu'on sorte, qui est mon gardien de nuit, qui me raconte toujours des histoires avant de sortir. Et quand je suis seule, avant de sortir, il vient là, je m'assois avec lui et il me raconte des histoires des villages. Et il me raconte des histoires, on voit bien, qui croient complètement. Il m'a raconté, par exemple, une histoire d'un chasseur maya qui avait tué trop de daims ici et que les daims, un jour, sont révoltés contre lui et l'ont attaqué. Et il est devenu malade et bien sûr, un an plus tard, il est mort. Et il m'a raconté cette histoire. Ce n'est pas une histoire, c'est quelque chose de vrai, de son village qui est arrivé. Il a connu le monsieur, c'était le mari de sa sœur. Et il m'a raconté ça en m'apprenant un peu une leçon, quoi. Et c'est ça que j'aime, cette espèce de spiritualité, où même dans le monde moderne, ce monsieur a quand même toutes ses racines des Mayas. Et cette nature qui est autour de lui est quand même très importante, même dans ce Mérida tellement moderne où on a des hamburgers américains et tout ça. Il y a quand même, ces messieurs sont là, ils sont encore là. Et il y a même des jeunes, puisque les gens aiment raconter des histoires. Il y a quand même une tradition orale qu'il ne faut pas oublier, qui existe encore toujours et que pour moi, je sais pas, j'espère que ça va rester dans le futur. Thank you.